Jeanne. Accès centre historique, couvent des Jacobins, office du tourisme, l'Hélice, campus centre.
Dans la ville, tout va vite. On court après le temps. Dans notre imaginaire collectif, la ville est l'endroit du foisonnement, du flux permanent, des transports, du travail et d'un tas d'autres activités économiques. C'est pour prendre le contre-pied de ce lieu de foisonnement que nous avons décidé de consacrer cet épisode à la pause. Mais s'arrêter, est-ce possible? Peut-on vraiment faire une pause en ville? Pour répondre à cette question, nous avons eu l'occasion de nous entretenir avec deux actrices institutionnelles de la ville de Rennes.
Je suis Caroline Gergaud, je suis conductrice d'opérations à la direction des espaces publics et des infrastructures.
Moi, je m'appelle Iris Bochonnet et je suis adjointe à la maire de Rennes en charge des questions de jeunesse, vie étudiante et politique des temps.
Comme nous, elles se sont posées la question de comment définir la pause.
Et c'est vrai que le mot pause m'a interpellée parce que c'est pas un mot qu'on utilise d'un point de vue professionnel. Alors, il est caché derrière différentes choses, hein, mais en tant que tel, moi, ça m'a interpellée parce qu'on ne l'utilise pas. Et j'y vois deux dimensions différentes, en fait. Une dimension auquel vous avez fait écho tout à l'heure, temporelle. Donc vraiment de prise de temps et d'interruption dans les activités. Et je le traduirais plutôt, en tout cas dans ce qu'on prend en charge, par la dimension physique, c'est-à-dire la pause au sens de se poser, c'est-à-dire s'arrêter et s'installer quelque part, quoi.
C'est intéressant, la notion de pause, parce que je pense qu'elle a plein de définitions possibles. Assez classiquement, on pourrait voir ça comme un moment où on s'arrête. Ce qui a du sens, je pense, dans la vision de la ville et dans la temporalité d'une ville où on a quand même une forme d'accélération constante. Enfin, on est quand même beaucoup sur des déplacements. Et comment est-ce qu'on se donne des bulles où on peut respirer? Je pense que la pause, ça peut être autant des espaces où on peut se sentir, se ressourcer. Donc des espaces où on peut s'asseoir, se poser, en l'occurrence. Et après, ça dépend, la définition va dépendre de la personne. Il y a des gens qui vont se ressourcer en lisant dans les transports, il y en a qui vont se ressourcer en voyant leur famille dans un espace public, ou il y en a d'autres qui vont juste se poser tout seul dans un parc.
Et pour les Rennais et Rennaises, c'est quoi une pause ?
Moi, c'est un moment où on recharge ses batteries sociales. C'est un moment de calme, de tranquillité, où on est en introspection avec soi-même, où on prend le temps de souffler, en fait, et on se détend. Voilà. La plupart du temps, c'est Netflix ou lecture.
Ouais, c'est prendre du temps pour soi, tout simplement. Et kiffer après le boulot, juste kiff.
Manger une glace tranquille.
En fait, il y a plusieurs formes de pause. Hein. On peut faire une pause comme ça dans un espace où, en fait, même si on est assez citadin, on se reconnecte un petit peu avec la nature. Bon, c'est assez apaisant. Et puis, il y a d'autres modes, il y a d'autres façons de faire des pauses. On peut aller en terrasse. Prendre un pot, c'est aussi une façon de faire une pause, quoi. Mais c'est autre chose.
Donc la pause, ça peut aussi mettre l'après-midi, si je viens faire d'autres courses en ville, ou si j'ai envie de marcher. C'est un peu n'importe quand, ouais.
Moi, j'aime bien manger, jouer aux jeux vidéo, écouter la musique. Voilà, être avec des amis, me poser au soleil, voilà. Kiffer la vie. La bière aussi.
On discute, on regarde la nature.
On regarde pousser la végétation et on regarde aussi les canards qui passent. Voilà.
Et on prend le temps de rêvasser.
Si les moments de pause ne sont pas les mêmes pour tout le monde, le but recherché reste souvent le même, celui de se ressourcer et de prendre du temps pour soi. Mais qu'est-ce qui fait que les gens choisissent un endroit plutôt qu'un autre pour prendre une pause en ville ?
Principalement dans les parcs, parce qu'il y a des bancs, il y a des espaces verts, c'est plutôt agréable de se poser là, puis avec le soleil et tout, c'est sympa, comme aujourd'hui par exemple.
Non, mais des grandes rues piétonnes sans voiture et tout, c'est sympa quoi, pour se poser, c'est reposant quoi.
La mairie, il y a beaucoup de passages, on a l'impression d'être un défilé de mode. Je trouve ça très drôle.
Ben moi déjà, il faut qu'il y ait de la pelouse, de l'eau, admettons, qu'elle s'insire, tout ça, que ça soit très ouvert et que ça soit calme en même temps.
L'ambiance, souvent c'est l'ambiance qui joue le plus.
Ça va surtout être les infrastructures qui sont mises à disposition, s'il y a des bancs et tout, ça va plus facilement.
Ouais, moi j'aime bien être entouré de monde, du coup, que ce soit à l'extérieur ou en intérieur. Moi tant que je suis entouré de belles personnes et tout, moi, ça me va.
Et vous, Caroline Gergaud, en tant que technicienne et productrice d'espace, comment ce sujet se traduit dans vos projets ?
En général, on intègre cette notion de pause au sens de se poser dans la thématique des assises, tout bêtement. On sait que dans tel et tel espace, on va avoir besoin d'aller mettre des bancs, des espaces d'assises. On manque parfois de ce temps sur cette thématique-là pour prendre le recul et y réfléchir. L'approche pause et l'approche se poser assise n'est qu'un petit élément parmi 12 000 autres. Donc c'est aussi pour ça sans doute qu'on ne prend pas ce temps-là, sauf peut-être sur certains projets plus spécifiques où on sent qu'il y a une attention un peu plus particulière à y porter. Nous, on ne sait pas forcément a priori ce que les gens vont en faire. Parfois, c'est clairement identifié, parce qu'on sait qu'il y a un besoin clairement demandé et qui peut être d'ailleurs un besoin de pause et de banc. Mais parfois, c'est beaucoup plus flou que ça, quoi. C'est un espace public, donc c'est ouvert à tous. Et les gens se l'approprient. Et on est parfois surpris, en fait, des usages qui arrivent par l'aménagement qu'on a pu réaliser sans qu'on y ait pensé à l'avance.
Si la pause n'est pas forcément pensée en tant que telle spatialement, elle l'est temporellement. C'est ce qu'a pu nous expliquer Iris Bouchonnet.
On n'a jamais eu autant de temps libre et jamais autant le sentiment de manquer de temps. Et donc, du coup, c'est comment est-ce qu'on rend accessible des espaces ou des moments de la journée qui permettent de se ressourcer. Notre réflexion, elle s'est pas mal portée sur la question des espaces ressources comme les espaces verts. Quels doivent être les horaires d'ouverture de ces parcs et jardins pour pouvoir correspondre aux besoins des Rennais et des Rennaises. On s'est fixé comme objectif qu'en 2030, il puisse y avoir un espace vert accessible à moins de 5 minutes de chez soi pour tous les Rennais et les Rennaises. Et donc ça, typiquement, je pense que ça va vers le droit au temps de pause.
Finalement, nous remarquons que la végétation a un rôle important, comme si sa présence permettait de se couper de l'effervescence de la ville et de son bruit, pourtant encore audible.
Le calme. Le calme et le panorama. Par exemple, je trouve que c'est 100 fois plus agréable de prendre sa pause face à un cours d'eau, des arbres, avoir sa tranquillité dans un monde où on est tout le temps très pressé, on prend le métro, il y a tout le temps plein de gens, plein de bruit.
Bah, y a de l'espace, il y a possibilité de se poser, il y a de la verdure. C'est assez coupé du reste de la ville aussi. Y a des endroits où on voit même pas forcément de bâtiments ou de choses comme ça.
Et ça tombe bien, car la végétalisation est un véritable enjeu pour les villes de demain, offrant alors de nouvelles opportunités.
Je pense qu'aujourd'hui, les critères qui sont priorisés, c'est bon, déjà répondre aux besoins initials et surtout tous les enjeux des imperméabilisations, planter des arbres, réussir à développer la biodiversité, faune-flore. Finalement, l'aspect, par exemple, bulle visuelle, ça va peut-être arriver avec, ça va être de pair, mais je ne suis pas sûre que ce soit le critère qu'on priorise. Finalement, l'aspect esthétique, il arrive par la végétalisation.
Je suis plus dans les associations, moi, bénévole au foot, des choses comme ça, quoi. Donc, pas trop le temps de se poser autrement, quoi.
Parce que oui, traiter du sujet de la pause en ville nous amène également à parler des inégalités sous-jacentes. Nous avons pu en discuter avec Iris Bouchonnet.
Le temps, c'est un facteur d'inégalité. Quand on a de l'argent, on peut s'acheter du temps. On peut s'acheter un service d'aide ménagère, de garde d'enfants, etc. Donc c'est comment est-ce que les collectivités, elles peuvent réduire les inégalités entre les habitants et habitantes liées au temps, et notamment le temps des femmes. On parle souvent de la deuxième journée de travail qui commence quand on rentre chez soi et qu'on doit s'occuper des enfants. Alors aujourd'hui, je pense que l'égalité avance un peu sur ces questions, mais néanmoins, il y a quand même des inégalités liées à tout ça. Ça peut se jouer, par exemple, en travaillant sur les horaires de travail au sein de nos établissements en service public. Il y a beaucoup de personnels qui gèrent le ménage qui vont être plutôt des femmes, qui vont avoir tendance à travailler sur des horaires atypiques, donc ça va les mettre en difficulté par rapport à leur garde d'enfants, etc. Donc nous, au sein de la ville de Rennes, on fait en sorte qu'elles travaillent en journée, on adapte leur matériel de travail pour qu'ils puissent travailler en journée, etc. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple, ça va être sur les horaires des services publics. Comment est-ce que tout le monde peut bénéficier d'un accès à la piscine ou d'un accès à la mairie? Donc comment est-ce qu'on revoit les horaires des services publics pour qu'ils puissent correspondre aux besoins de tout le monde, sachant que l'objectif, c'est pas d'ouvrir plus, mais c'est d'ouvrir mieux. Rennes avait été élue il y a 2 ans la ville la plus engorgée de France, un truc comme ça. Et donc du coup, on va travailler à comment est-ce qu'on va réduire ça, comment est-ce qu'on va aménager temporellement le temps. On a souvent une approche d'aménagement par la construction de nouvelles infrastructures, bah là on va essayer de réfléchir à comment prendre les choses autrement. Et là j'ai un exemple qui concerne la ligne de métro A, où il y a quelques années, après sa mise en service, elle était complètement engorgée aux horaires de pointe. Et donc le bureau des temps a mené une consultation et une concertation avec tous les établissements et les institutions qui étaient sur le territoire, donc l'université, le CHU, etc., en se disant comment est-ce qu'on peut désengorger la rame. Et en fait, il y avait un engorgement autour de 8 heures. Il a, entre guillemets, suffi de décaler les horaires de cours de la moitié des étudiants d'un quart d'heure, et ça a permis de désengorger la rame et donc d'éviter des millions d'euros d'aménagement supplémentaires pour agrandir le métro.
Nous avons également évoqué avec Caroline Gergaud les inégalités liées à l'accessibilité et à l'adaptation des espaces pour certaines catégories de personnes.
Donc à ce titre, d'ailleurs, la chaise que vous voyez partout en ville, à Rennes en tout cas, le modèle avec les accoudoirs, là, ça fait l'objet en fait de cette réflexion qui a été portée par un collectif, testée, expérimentée. En fait, les personnes âgées ont besoin d'avoir deux accoudoirs quand elles ont un peu du mal à se relever et d'avoir une assise un peu confortable. Elles ne restent pas sur un banc des heures pour se poser, parce qu'elles ont vite mal au dos, mal aux fesses. Et donc, du coup, on en est arrivé à ce modèle-là qu'on met un peu partout, parce qu'on sait que, bah, pour le coup, il va convenir à tout le monde, finalement. Donc, la suite aujourd'hui, c'est de l'approche pour les enfants. Et le dernier sujet qu'on est censé traiter, et qui, pour l'instant, n'est pas facile à prendre en main, c'est la question du genre. C'est d'avoir, de réfléchir à penser nos espaces par les femmes et pour les femmes, parce qu'aujourd'hui, ça a toujours été pensé plutôt par les hommes et pour les hommes. Et ils avaient testé sur le volet genre, tout un été en ville, l'usage que faisaient les ados, donc la catégorie plutôt jeune, 15-18 on va dire, des espaces de leur quartier. En faisant la distinction de comment les garçons les utilisaient, comment les filles les utilisaient, puis après ils en avaient fait une analyse. Et ce qui en ressortait, c'était qu'en gros, les groupes de garçons, ils se posaient à peu près partout, en fait. Ils n'avaient pas besoin de grand-chose, une bordure, un abribus, un appui vélo suffisait à faire réunir un groupe de garçons. Alors qu'en général, les jeunes femmes, filles du même âge, aimaient bien se poser plutôt sur un truc qui était conçu pour, en fait. Donc plutôt une table de pique-nique, des bancs. Elles se posaient rarement comme ça partout, n'importe où. Ça veut dire que si on ne met pas d'assises de bancs dans un espace, bah, de fait, on aura moins de filles que de garçons. Parce que les garçons, ils s'en fichent, ils se poseront quand même, s'ils ont envie de se poser, alors que les filles sont peut-être moins inclines à s'y poser et à s'y installer.
Comme nous aurions pu le penser au premier regard, la pose ne dépend pas seulement d'un choix individuel, mais révèle de véritables inégalités sociales qui sont des enjeux importants pris en compte dans les politiques de la ville. Aujourd'hui, les lieux de pose et d'apaisement sont au cœur de nombreux sujets de recherche, allant de pair avec l'éveillement des consciences sur des sujets comme la santé mentale, les inégalités sociales ou encore la question du genre. Mais finalement, dresser un portrait type d'un lieu de pose en ville semble impossible au vu de la diversité de manières de prendre une pause. Et vous, quel est votre lieu de pose favori en ville ? Le podcast que vous venez d'écouter a été réalisé, monté et produit par
Oscar Glorenec,
Léonie Bourgoin
et Denis Zenguin. Les musiques que vous avez entendues dans ce podcast ont été composées par Mr. Smith et Hicham Chahidi du site www.musicscreen.org.